Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, Thomas Gunzig est l'invité de l'émission pour son nouveau roman, génial comme d'habitude. Nous visiterons une bibliothèque, évidemment celle de Patrice Lecomte aujourd'hui. Stan, notre libraire, nous donnera quelques bonnes idées de lecture et Héloïse Goua fermera la boutique avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. On avait quitté Thomas Gunzig avec le superbe Feel Good, le revoilà avec le sang des bêtes dans la géniale maison d'édition Le Diable Vauvert. C'est l'histoire de Tom, la cinquantaine, vendeur de compléments alimentaires pour bodybuilder, pour sécher le corps ou prendre de la masse. Il s'ennuie beaucoup, Tom, chez lui c'est moyen, son couple se délite doucement, son fils est mélancolique et bientôt son père débarque chez eux. Un jour il rencontre une jeune femme, Enceta, très jolie mais qui s'avère être une vache. Une vraie. En tout cas, c'est comme ça qu'elle s'identifie. Du pur Gunzig, à la fois drôle, nostalgique et subtilement entre les lignes métaphysiques. Vous n'êtes pas tout à fait le même quand vous terminez le roman. Bonjour Thomas Gunzig.
Bonjour.
Je peux commencer avec une question personnelle, Thomas ?
Allez-y.
Qu'avez-vous fait de votre vie ? Non, ne répondez surtout pas. Mais en tout cas, Tom, le héros de votre nouveau roman, se pose la question sans arrêt. Et c'est aussi très présent dans vos autres romans, notamment Feel Good, le dernier. Ça vous obsède, cette question ?
Mais
c'est l'âge ?
En fait, peut-être pas tellement. je sais pas. Oui, ça doit être une question d'âge. Hein. Peut-être que vous comprendrez ça quand vous aurez atteint la cinquantaine. C'est un âge très étrange. Hein, où vous n'êtes carrément plus jeune, mais vous n'êtes pas encore vieux. Donc, c'est peut-être le moment de faire des sortes de bilans. Mais alors, je n'ai absolument aucune réponse à cette question. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait de ma vie. Les gens prétentieux vous diraient, je ne sais pas, j'ai fait 3 enfants. C'est vrai que j'ai fait ça, c'est pas mal.
Mais surtout, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose de sa vie, quoi ? Est-ce qu'il faut avoir foulé le sol de la Lune ? Est-ce qu'il faut traverser le monde, l'Atlantique à la nage ? Ou est-ce que déjà, avoir une vie chouette et être un chic type, c'est suffisant ?
C'est suffisant, mais j'ai médité un petit peu cette question, figurez-vous. Et il y a cette image classique que j'aime bien qui est « qu'est-ce que le petit garçon que vous étiez penserait de l'homme que vous êtes devenu ?» Et je pense que si je me figure le petit garçon que j'étais comme étant plutôt satisfait de l'adulte que je suis devenu, je me dis c'est pas mal, j'ai fait quelque chose de ma vie, en tout cas je lui ai rendu service.
Moi il voulait que je sois un chevalier du zodiaque, donc là c'est mort.
Ouais, moi il voulait que je sois... En tout cas, une sorte de super-héros, donc j'ai un peu loupé le coche. Donc je pense qu'il est un peu déçu, mais je crois qu'il pense qu'il y a pire, donc ça va.
Justement, ça commence comme ça. C'était au milieu de l'automne, au milieu de l'après-midi, et comme c'était le jour de son 50e anniversaire, il se dit qu'à peu de choses près, il devait aussi être au milieu de sa vie. Le milieu du guet, comme ça, c'est une question chouette, parce que ça veut dire qu'il y a à la fois tout le passé derrière, équivalent à tout le futur qui arrive. Si on considère que c'est vraiment le milieu.
Ouais, mais le futur fait un peu peur, hein, parce que la seconde moitié, généralement, elle est plutôt en forme de pente, comme ça, descendante. Il y a tous les critères du corps qui va commencer tout doucement à vous lâcher. Hein. J'ai toujours espéré pouvoir lui faire une confiance absolue. Et arrivé à la cinquantaine, je me rends compte, malheureusement, que ça ne sera pas le cas.
Ben justement, on va parler du corps, c'est aussi un roman sur le corps, mais je voudrais d'abord qu'on parle de l'ennui, puisque Tom donc s'ennuie, il est vendeur dans un magasin de compléments alimentaires pour les amateurs de bodybuilding, il pratique lui-même la musculation. Quand je dis qu'il s'ennuie, il traîne sur YouTube et autres Instagram, ce qui est, comme il dit, une manière comme une autre de s'ennuyer. Et alors, ce qui est génial avec vous, Thomas Gunzig, c'est pas la première fois qu'un de vos héros s'ennuie, mais c'est très dur, en fait, techniquement, d'écrire sur l'ennui sans ennuyer le lecteur. Et avec vous, ça devient très drôle.
Mais j'ai des souvenirs apocalyptiques d'ennui, c'est-à-dire que j'ai longtemps été moi-même employé dans une librairie. Et je me rappelle de longues après-midi où je devais rester là, à mon poste, et où il se passait rien. Et l'ennui, c'est une vraie douleur physique. C'est une vraie épreuve physique, c'est quelque chose... Et je pense que l'ennui rend fou. Je me rappelle que j'avais des bouffées de violence, mais que je ne pouvais pas exprimer. Évidemment, je devais rester gentiment assis et puis répondre au téléphone, répondre aux clients. Et j'avais des pulsions de renverser les étagères, de frapper les gens. Et je pense sincèrement que l'ennui rend fou.
Ça compte pas parce qu'entouré de livres, on ne peut pas vraiment s'ennuyer.
Eh bien, si. Si, quand votre métier, c'est de les vendre, les livres, vous les voyez presque comme des ennemis, c'est-à-dire chaque livre parti, vous devez le recommander, vous devez le ranger, les caisses arrivent, donc ça devient des objets, quoi.
Mais vous ne seriez peut-être pas un écrivain si vous vous étiez jamais ennuyé. C'est fertile aussi, l'ennui. Le pur ennui, l'ennui hyper profond et dont on sort par l'imagination.
Ouais, mais je crois que ça doit être un choix, alors. C'est très gai les moments où on se dit, aujourd'hui, je vais juste rester sur mon canapé allongé avec une petite couverture et regarder le plafond et laisser me mettre dans un état de disponibilité propice à l'écriture, ça c'est magnifique.
L'ennui choisi.
L'ennui choisi, mais l'ennui imposé pour une activité professionnelle qu'on n'a pas choisie, et voilà, et ça c'est affreux, c'est vraiment horrible.
Alors, il est tout le temps fatigué, Tom, pour finir de présenter le personnage. Il n'est pas épuisé, mais c'est une petite fatigue suffisante pour l'empêcher d'avoir envie de quoi que ce soit.
Ouais, ça on voit
très bien ce que c'est.
C'est un truc qui vient avec la cinquantaine, je crois. Les gamins sont jamais fatigués. Un gamin, c'est toujours full power comme ça, sur on. Et puis avec l'âge, cette énergie diminue. Et puis au moment, vous avez une espèce de fatigue permanente. Même quand vous avez des bonnes nuits de sommeil, vous réveillez un peu crevé. Et puis c'est bizarre, c'est un truc très très étrange.
C'est l'énergie en fait qui s'en va, qui fuit.
Ouais, voilà.
Et c'est un problème pour Tom qui a toujours voulu être quelqu'un d'énergique.
Voilà, et alors c'est intéressant parce que cette énergie, le seul moyen de la récupérer, en fait, c'est de la dépenser. Donc il y a un paradoxe là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut faire du sport, avoir une activité physique pour, pendant les heures qui vont suivre, ne plus sentir cette fatigue-là.
Surtout ce qui le fatigue, c'est toute la vie quotidienne en général. C'est-à-dire qu'il rentre chez lui, il y a une surprise pour son anniversaire. Pour lui, c'est vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est un soupir de fatigue parce qu'il va devoir jouer les convenances, dire merci, dire oh, c'est super ce cadeau, alors qu'en fait, il n'est pas forcément fan. Il est obligé de jouer la mascarade, quoi.
Ouais, mais c'est parce qu'il est, là, comme on dit, de sa vie. Il sait comment ça va se passer son anniversaire, il sait comment se passera le lendemain. Il connaît déjà tout le scénario, tout le cérémonial, et c'est comme un film qu'on a vu 50 fois à un moment. Oui, on est fatigué, on a envie de passer à autre chose.
Mais alors, il a quand même une belle surprise, enfin une belle, je sais pas, mais sa femme lui offre un test ADN.
Ouais. Oui, c'est marrant parce que pour écrire ce livre, j'aime bien me documenter. Et donc, moi, je me suis offert le même cadeau.
Ah, que... c'était ma question, vous l'avez fait. Donc, c'est un test ADN, on crache dans un tube, on le renvoie à une adresse, ouais, et après, on reçoit les résultats de nos origines génétiques.
Voilà. Alors, tout le monde autour de moi m'a dit « Mais t'es fou, faut pas faire ça, tout ça est stocké dans des banques de données, ils vont tout savoir sur toi. » Je pense que vu que je suis sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, ils savent déjà tout sur moi, donc ils vont pas savoir beaucoup plus. Mais c'est absolument passionnant.
Et alors, ça a donné quoi pour vous ?
Alors, ça a donné...
Vous êtes belge.
Je suis belge. Mais alors, c'est marrant parce que ça se présente sous forme de carte du monde, exactement comme je le décris dans le roman. Et puis il y a donc des petits spots qui apparaissent, dans mon cas Europe de l'Est, que ça c'est normal, un petit peu l'Europe du Nord, la Scandinavie, etc. Puis il y a eu un spot, et ça a été l'objet dans le roman aussi, qui apparaît soudain en Amérique du Sud.
En Amérique du Sud ?
Alors là, je savais que j'avais un peu des origines en Afrique aussi, mais l'Amérique du Sud, là franchement, la cordillère des Andes, ça c'était une surprise, mes parents n'ont pas compris. Je pense qu'il y a un secret de famille qui n'a pas été
décidé. On ne vous a pas fait une révélation à ce moment-là.
Mais non, malheureusement.
Ce sera peut-être le cas dans ce roman, mais ça, il faudra lire pour savoir. Restez avec nous, Thomas Gunzig. Soufflez un peu, on reprend 3 cycles de traction dans un instant.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre avec Thomas Gunzig, romancier génial qui nous revient avec Le sang des bêtes au Diable Vauvert. Alors on écoute en même temps la musique de Rocky IV, Training Mountain, qui moi-même me donne envie de faire du sport, ce qui n'est pas gagné au départ, parce que c'est un roman sur le rapport au corps. D'ailleurs, Thomas Gunzig, tous les titres de chapitres sont des noms de muscles. Deltoïdes, pectoraux, splénius, parce qu'il y en a des très connus, d'autres, moi j'avais jamais entendu parler de ces muscles-là, peut-être d'ailleurs je ne les ai même pas, mais pourquoi ?
J'ai longtemps été le plus petit et le plus maigre de ma classe. J'ai pris ça comme une donnée longtemps, que j'étais un petit gringalet. Et puis dans ma famille, on n'était pas sportif, on méprisait même le sport. Et j'étais très très complexé par rapport à ça. Moi je voulais être grand, je voulais être fort, etc. Et puis un jour, je ne sais pas si on peut appeler ça un déclic, mais je me suis dit, je refuse que ça soit une donnée. Je suis sûr qu'il y a moyen d'agir sur mon corps pour le modifier. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Là, je me suis inscrit dans un club d'arts martiaux parce que j'avais aussi très peur de la violence, j'avais très peur des coups. Et donc, je me suis dit, il faut aller connaître et rencontrer ce qui nous effraie un peu, peut-être pour le maîtriser. Et puis, ça m'intéressait, tout ça.
Et vous faites du jujitsu brésilien, je crois.
Ouais, exactement. Bien informé. Bah non, c'est du jujitsu.
Ce qui est très dangereux, d'ailleurs. C'est un des arts martiaux les plus violents du monde. Mais c'est de la sagesse et tout, et de la maîtrise de soi.
On peut se blesser à l'entraînement si on s'entraîne avec des gens maladroits,
voilà,
des
étranglements sur l'autre, etc.
Je me suis cassé le doigt d'ailleurs. Enfin bref. Et donc voilà, je me suis mis à faire du fitness, de la salle de sport, du bodybuilding, comme vous dites. Enfin, pas du bodybuilding, pas du vrai pour devenir comme Schwarzenegger, mais juste pour prendre de la masse, prendre du muscle. Eh ben, ça a été formidable. Ouais.
Et c'est vrai que Thomas Gunzig est très baraqué, c'est pas très radiophonique.
Non, mais là j'ai perdu un peu de masse quand même, parce que depuis septembre à décembre, j'ai plus trop le temps. Mais il y a la mémoire musculaire, donc j'ai envie de reprendre quand je vais m'y remettre.
Mais alors justement, je savais que vous faisiez de la musculation, d'ailleurs ça se voit, mais vous n'avez jamais parlé de ça dans aucun de vos romans. Et là, vous avez tout mis, donc j'ai dit chaque titre de chapitre, c'est un nom de muscle, et puis donc le héros, Tom, est dans ce concept-là. Il a commencé la musculation très tôt et il en fait encore beaucoup, beaucoup, 5 fois par semaine. Et là, en fait, il vend des compléments alimentaires. Il sait, lui, que ça ne sert pas à grand-chose, en fait, qu'on a quand même une limite génétique.
Absolument. Oui.
Qu'il refusait jusqu'à maintenant.
Oui, c'est-à-dire qu'on est tous bombardés, enfin, ceux qui aiment un peu la musculation et que ça intéresse, en tout cas, ces idées de modification du corps. On connaît les images des champions du monde, Mister Olympia, etc. Ce sont des gens là qui dépassent en gros leur limite génétique avec le dopage, avec des produits tout à fait néfastes à la santé. Mais si on se limite aux compléments alimentaires légaux, à savoir la protéine, un peu de créatine, les acides aminés, etc., on ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil, quoi. Et effectivement, c'est un peu désolant pour ceux qui veulent faire des vraies performances.
Et l'idée, bien sûr, ce sera de savoir si oui ou non il va accepter sa nature. C'est au cœur du roman, la nature, on va y venir tout de suite. Juste, j'ai une petite question subsidiaire. Qu'est-ce qu'un somatotype, Thomas Gunzig ?
Alors, un somatotype, alors c'est quelque chose qui existe ou pas. En tout cas, il y a un débat autour de tout ça. Mais c'est ce qui détermine, en gros, votre allure corporelle. Donc, on dit qu'il y a les ectomorphes, etc. Donc, des gens qui sont plutôt très maigres, avec des muscles longs, des gens qui sont plutôt trapus, avec des muscles épais, des gens qui sont entre les deux. Et ça déterminerait, en tout cas, selon cette pensée.
Un scientifique de début 20e.
Ouais, c'est de cette époque-là, on aimait bien mesurer les gens en tous les sens et en tirer des conclusions.
Ça dit quelque chose sur votre personnalité, en tout cas, la forme de votre corps.
La personnalité, et ça vous n'irez jamais au-delà de ce que votre corps vous dit.
Alors, être très musclé, comme Tom dans le roman, ça n'empêche pas d'avoir peur. Et il est dans son magasin et il voit à travers la vitrine une jeune femme en train de se faire embêter par un monsieur qui peut être son père, peut-être, ou son mari, éventuellement. Ouais. Enfin, toujours est-il qu'il lui donne une tape sur la tête et ça ne lui plaît pas du tout à Tom. Et il est très énervé, il a envie d'y aller, mais il n'y va pas.
Oui, je pense que c'est une émotion assez commune. Hein. C'est soudain, quand on est confronté à la violence, c'est la peur. Quoi. Si on n'a pas l'habitude, si on ne s'est jamais battu.
C'est un petit bonhomme, hein, le vieux monsieur.
C'est un petit bonhomme, mais c'est une peur un peu irrationnelle. D'autant que Tom a été élevé dans cette idée de la peur. Hein. C'est dans le roman, il a été élevé par un père juif, fils de déporté, qui a connu la guerre. Et donc, la peur est quelque chose qui est inscrit en lui, en tout cas, on a l'impression, depuis des générations et des générations.
À chaque fois qu'on parle, je me rappelle qu'il y a cet axe-là aussi, cette ligne-là à tirer. Pourtant, ça fait que 200 pages, ce livre. C'est dense, c'est quand même condensé, tout un tas de pistes comme ça. C'est techniquement assez admirable. Il va y aller quand même un jour, aider cette jeune fille, parce qu'elle reviendra. Elle s'appelle Enseta. Magnifique, ça sonne très oriental et tout ça, mais en fait c'est N comme Nicolas, 7A comme Antoine, N7A, c'est un numéro de série en fait, voilà. Et donc il la prend sous son aile, il la protège, il la sauve de cet homme, et elle lui dit qu'en fait elle est une vache.
C'est ce qu'elle va lui dire.
C'est une très jolie jeune fille qui ressemble d'ailleurs à une actrice.
Ouais, voilà. C'est ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire qu'elle a beau avoir l'apparence d'une jolie jeune fille, génétiquement, elle est une vache. Mais elle est une vache génétiquement modifiée pour avoir l'apparence d'une jeune femme. Et donc, elle se trouve effectivement entre deux espèces, l'espèce humaine et puis l'espèce bovine, qui va lui causer quelques problèmes pour se situer dans le monde.
Et ça, c'est vraiment passionnant dans le livre, parce qu'au début, on se dit, elle est folle et c'est tout. Elle a dû être traumatisée par quelque chose. Maintenant, elle se prend pour une vache, c'est bien. Puis ensuite, ça avance un petit peu. On voit qu'elle aime beaucoup porter des choses très, très lourdes. C'est d'ailleurs sa passion dans la vie, voilà. Porter des choses lourdes. Et là, on se dit, ah d'accord, y a quelque chose d'étrange. Là, on vire un peu dans une forme de décalage belge, pardon de vous rappeler, vous ramener à la belgitude, mais un truc de surréaliste un peu, quoi. Genre un petit décalage comme ça, très particulier. Et puis ensuite, je ne raconte pas ce qui se passe. Mais cette idée de cette personne-là se dit une vache et qu'en penser ? Et bien justement, on va voir ça dans un instant.
La voix est livre.
Nicolas Carreau.
La voix est livre, le retour de la vengeance avec Thomas Gunzig pour le sang des bêtes au diable Vauvert. Nous parlons donc de Tom, le héros, 50 ans, qui fait du bodybuilding, qui est très fort et tout, mais qui n'a pas toujours le courage de sa force, qui va essayer de retrouver. Et puis un jour, il tombe sur une jeune fille qui s'appelle N7A. Et qui lui dit être une vache, alors qu'elle ressemble plutôt à une très jolie fille. Et c'est ce que je disais, au fur et à mesure du roman, notre perception change. Au début, on pense qu'elle est folle. Finalement, on se dit, tiens, y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire être une vache ? Et en fait, c'est une manière incroyablement subtile d'interroger tous les questionnements actuels sur l'identité. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit... Être une vache, est-ce qu'il faut respecter ça ? Est-ce que... ça devient évidemment absurde. C'était ça l'idée de départ ?
Non. Alors, en fait, je crois que quand je commence un livre, j'aime bien très simplement avoir une bonne situation de base. Et je me suis dit qu'une vache génétiquement modifiée qui ressemble à une jeune femme, c'est quelque chose, en tout cas personnellement, qui excite mon imaginaire. C'est une histoire que j'aimerais lire. Et puis, il faut traiter cette histoire, même si elle est de l'ordre du fantastique, il faut la traiter de la manière la plus rationnelle qui soit. Et si c'est vraiment... une vache génétiquement modifiée, qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, personne ne va la croire, etc. etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Il ne faut pas qu'il y ait d'autres éléments surréalistes, bizarres, étranges qui apparaissent. Tout le reste, c'est parfaitement normal. C'est dans notre monde, avec des gens qui nous ressemblent plus ou moins. Et puis, est-ce que j'ai voulu interroger tout ça ? Non, ce n'était pas l'intention de départ. C'est évidemment quelque chose qui se sont posées dans le roman.
Non, mais je vous le demande parce qu'il y a Jade aussi, le personnage de Jade, qui est la petite amie de Jérémy, le fils du héros, Tom. Et en fait, cette Jade, elle est très branchée, wokisme, elle prend Tom pour une sorte de cro-magnon avec des accusations de virilisme, de mansplaining Jade, et tout ça. Et quand elle rencontre cette N7A qui se dit être une vache, elle lui dit... Elle engueule Tom pour lui dire si elle dit que c'est une vache, c'est tout.
Ce que j'avais envie de faire, je pense, c'est peut-être un peu ambitieux, mais c'était de rendre compte de la complexité des gens, des choses et des situations. Et c'est vrai que notre pratique des réseaux sociaux, etc., on se rend compte qu'on nous classe très vite dans plein d'alvéoles, dans plein de domaines, hein, les hommes, les femmes, les bi, les gays, les trans, etc. Il y a plein de sous-ensembles auxquels il faut nécessairement appartenir.
Il faut choisir.
Et j'ai l'impression qu'on a tendance à fonctionner comme les algorithmes voudraient qu'on le fasse, c'est-à-dire de manière numérique. Hein. On veut un ou zéro appartenir à ça ou à ça. Alors qu'on est analogique, quoi. Donc on est plein de nuances subtiles et compliquées qui nous font en fait rendre insaisissables à ces définitions. Et j'avais envie que ce personnage, N7A, mais aussi que Tom, que sa femme, que son fils, que Jade, soient des personnages qui soient beaucoup plus compliqués et insaisissables que ce qui leur apparaît, quoi. Voilà.
On va ouvrir la porte de la cuisine, si vous voulez bien, Thomas Gunzig, pour voir un peu comment vous cuisinez, justement, comment vous écrivez. Est-ce que d'abord vous avez une discipline d'écriture ? Est-ce que tous les jours, de telle heure, vous écrivez ? Ou alors c'est quand vous avez le temps ou quand vous avez l'inspiration, des choses comme ça ?
Ah non, j'ai une discipline dans la mesure où c'est vraiment mon métier. Généralement, c'est assez simple. Je dépose les enfants à l'école. Je continue jusqu'au petit café où j'ai l'habitude de travailler. J'y suis vers 8h30, 9h. J'installe mon ordi. Je travaille généralement jusqu'à 11h30 midi, puis je vais faire du sport et puis je travaille encore un peu l'après-midi.
Toujours au café ?
Non, après l'après-midi, c'est après le sport, donc je rentre chez moi prendre une douche et je travaille chez moi.
Et pourquoi au café le matin ?
J'aime bien être dans un lieu qui, a priori, n'est pas prévu pour le travail. C'est peut-être parce que j'aime pas le travail. Et plus ce café sera populaire et... avant, je travaillais dans un café où il y avait beaucoup de gens qui avaient des ordis et qui bossaient. Et ça avait commencé à me gêner parce que j'avais
l'impression... C'était co-working, quoi.
Ouais, exactement. J'aimais pas ça. Maintenant, je trouve un endroit génial. Il y a déjà des gars avec des bières à 8h30. Ils s'en foutent éperdument que j'ai mon ordi. Les gens sont super gentils, super sympas. En plus, il est moins cher. Et c'est un endroit où, a priori, il y a tout à faire sauf à travailler. Voilà. Et donc, j'y travaille bien.
Mais en Belgique, vous êtes quand même une figure connue. On ne vient pas vous embêter en disant « Tiens, bah vous écrivez quoi ? J'avais bien aimé l'autre ou j'avais pas aimé ?»
Oui, ça arrive, mais c'est toujours gentil, bienveillant, discret. Enfin, en plus, c'est super flatteur, quoi. Enfin, c'est gai des gens qui viennent vers vous et qui vous disent « J'aime bien ce que vous faites ». Enfin, généralement, pour vous dire du bien, quoi. Les gens viennent rarement vous dire de la merde. Donc.
Mais vous allez au café pour vous extraire de la solitude et du silence assourdissant de votre appartement en tant qu'écrivain ?
Non, mais c'est
malheureusement... Vous avez besoin de bruit ? Vous avez besoin de brouhaha ?
Ouais, d'abord, je trouve que l'appartement, c'est un endroit pour la famille, pour vivre, pour dormir, pour jouer, pour faire tout ce qu'on veut, mais pas pour travailler. Et puis, c'est vrai que j'aime bien le bruit, j'aime bien avoir une vue comme ça sur une rue où il se passe plein de trucs, sur un client qui rentre, sur un qui est bourré, sur un flic qui vient commander une gaufre. Enfin voilà, donc c'est sympa.
Mais ça vous casse pas la concentration ?
Au contraire, j'ai l'impression, c'est très étrange que j'ai beaucoup de mal, peut-être que je suis un peu hyperactif ou quoi, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer pendant des très longues périodes de temps. Et quand j'ai des micro-distractions, moi ça me permet vraiment de rentrer dans mon bouquin et d'y rester plus longtemps.
C'est quand la première fois que vous avez écrit une ligne dans l'optique de faire de la littérature ? C'est un grand mot, mais vous vous êtes dit « Tiens, je vais écrire une jolie phrase
». Eh bien, je pense que je devais avoir 13-14 ans. J'avais lu quelques livres, je me sentais comme une merde. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'être vraiment une crotte insignifiante dans le grand univers. Et je crois que je voulais simplement, comme Tom, donner un sens à ma vie, quoi. Me dire, il faut que j'ai une raison d'exister ici. Je ne peux pas juste être ce petit écolier que personne ne regarde, hyper gringalet, qui a des mauvais résultats scolaires. Et je pense que je me suis enflammé pour des rêves de grandeur et de gloire et qu'un moyen simple d'y arriver, à mon sens, c'était l'écriture. Voilà, c'est très, très, très naïf de croire ça. Mais voilà, j'ai écrit quelques lignes à ce moment-là.
Là, on est en pleine rentrée de janvier, ça commence. Ça représente quoi pour vous ? Est-ce que c'est du trac quand vous sortez un roman ? Est-ce que c'est du bonheur ? Est-ce que c'est chouette ? Est-ce que vous êtes détendu là-dessus ? Est-ce que vous allez voir dans les librairies s'il est bien installé ?
Non, c'est terrifiant, c'est horrible. C'est horrible parce que faut pas oublier, enfin, en tout cas dans mon cas, un livre c'est 2-3 ans de travail, de réflexion, d'investissement émotionnel, de questionnement, etc. Et on sait que beaucoup de choses, si pas toute la vie du livre, va se jouer en quelques semaines. Je comprends pas comment on peut arriver dans une entrée littéraire de manière détendue. Ce livre peut être bien reçu, mal reçu, reçu dans l'indifférence... Et s'il est mal reçu ou s'il est reçu dans l'indifférence, voilà, c'est toutes ces années de travail, d'efforts qui sont balayées. Et ça va remettre en cause plein de choses. Je serai déprimé, j'aurai envie de me tuer. Donc non, c'est vraiment une période horrible.
C'était d'ailleurs le sujet de Feel Good.
Oui, tout à fait.
Votre dernier roman, l'histoire d'un écrivain qui en a marre de ne pas vendre assez de livres et donc qui rajoute des ficelles marketing dans un roman pour qu'enfin il se vende bien.
Oui, voilà, exactement. Évidemment, parce qu'on sait qu'il y a, dans une entrée littéraire, il y a les 10-15 livres dont on va parler qui vont fonctionner et puis il y a les centaines d'autres. Et faire partie des centaines d'autres, c'est une cruauté absolue.
C'est plié en 2-3 mois en général, c'est assez cruel. Oui.
C'est plié en 2-3 mois.
Restez avec nous, Thomas Gunzig, dans un instant. Visite de bibliothèque, nous partons chez Patrice Lecomte.
La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre, toujours avec Thomas Gunzig pour son nouveau roman Le sang des bêtes au diable Vauvert. Nous quittons momentanément le studio pour rejoindre le réalisateur Patrice Lecomte. Il publie Monsieur Bouboule chez Artaud, un roman acide et drôle comme il sait faire. Allons voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Patrice Lecomte.
Oui, ben bonjour. Bienvenue dans cette bibliothèque un peu foutraque.
Oui, mais alors c'est très joli parce que on est juste à côté du salon qui ouvre sur une toute petite pièce avec pourtant une porte à double battant.
Oui.
Mais une toute petite pièce qui fait un peu... En fait, ça pourrait faire passage secret dans un cabinet secret.
Oui, ça peut faire boudoir. Il se trouve que c'est le bureau de ma femme et c'est là où, sur les étagères, on met les livres un peu dans n'importe quel ordre. Ça, c'est pas très raisonnable. Il y a des gens qui rangent leur bibliothèque avec par auteur et qui savent, quand ils veulent retrouver un livre, ils savent exactement où il est. Moi, quand je veux retrouver un livre, ça me prend un temps fou, sauf pour 4 auteurs que j'ai du plaisir à regrouper, parce que c'est les auteurs que j'adore et que je veux pas qu'ils soient disséminés un peu partout.
Bah, là, les murs sont des livres, mais c'est vrai que quand je suis rentré dans la pièce il y a 5 minutes, ce qui m'a attiré l'œil tout de suite, c'est une collection
La collection
de romans de Jean Echenoz.
C'est pas une collection, c'est simplement
une intégrale.
Alors les livres sont à côté de Jean Echenoz, mais Jean Echenoz j'adore. Je suis un.
Alors pourquoi? Parce que un fan absolu.
Mais parce que Jean Echenoz, je crois qu'elle a été le premier que j'ai lu. Je crois que c'était Nous trois. Et après, j'ai remonté le temps pour lire et découvrir les premiers livres de cet auteur. Et depuis, chaque fois qu'il publie, j'achète, je lis, je me régale et je suis aux anges. Parce que j'adore... On ne parle pas souvent, à propos des bouquins, enfin, on ne parle pas assez souvent du style.
De la musique des mots.
La musique des mots, comment c'est écrit, comment il réfléchit à ne pas construire la phrase n'importe comment. Il n'est pas le seul, bien sûr, mais lui, c'est flagrant. Et sa manière d'écrire me touche énormément. Et puis, il y a un humour entre les lignes, il y a une manière d'être presque goguenard vis-à-vis de sa propre écriture, vis-à-vis des personnages, pour être dedans, mais pour faire sérieusement sans se prendre au sérieux. Il y a une espèce de petite brume de fantaisie qui plane au-dessus de ses bouquins, et ça m'enchante.
C'est vrai que ça vous correspond assez. Est-ce que vous avez déjà pensé adapter un livre, un roman de Jean Echenoz ?
Quand vraiment... Parce que je vais dire, il y a la contre-vérité derrière, mais quand vraiment j'adore un auteur, pour ce qu'il représente pour moi, pour ce qu'il représente tout court, pour son style, pour tout ça, je ne veux pas y toucher.
Ah oui.
Mais cela dit, j'adore Simenon et j'ai adapté deux fois Simenon. J'adore Modiano et j'ai adapté une fois Modiano. Donc ce que je viens de dire est faux. Non, mais c'est sûrement parce que je pense... Mais je peux me tromper, mais je pense que Echenoz est parfaitement inadaptable.
Oui, on ne peut pas retranscrire ce style si particulier.
Non, parce que si on s'en tient simplement à l'histoire, les personnages, qu'est-ce qui leur arrive et tout,
c'est pas l'intérêt.
C'est pas la peine. Y a juste à côté d'Echenoz, il y a beaucoup de Raymond Queneau.
Oui, alors c'est pareil, ils sont tous rassemblés. Vous avez comme ça quelques obsessions, en fait.
C'est pour pouvoir les retrouver plus facilement. C'est-à-dire que il y a pas tout Queneau, j'en ai d'autres ailleurs, mais et Queneau et Echenoz, si je les ai mis côte à côte, inconsciemment, c'est peut-être parce que l'un comme l'autre sont, à mon sens, inadaptables.
Oui, Raymond Queneau, c'est aussi un représentant du fameux Oulipo, une sorte de société comme ça d'écrivains qui s'amusent avec les contraintes et les codes de la littérature. Alors, et aussi très drôle, souvent.
Il y a associé Pérec, évidemment, et quelques autres. Mais c'est vrai que l'écriture de ces auteurs-là m'enchante parce que, je ne sais pas comment dire, mais c'est, quand on lit Echenoz ou quand on lit Queneau, et même quand on lit Simenon et Modiano, et ça, on sent à quel point ils écrivent minutieusement, ils réfléchissent à la phrase, comment elle va se balancer. Il y a quelque chose... Quand je lis ces gens-là, je les vois écrire. C'est plus simple de dire ça comme ça.
Justement, vous parliez de Maigret, il y a aussi pareil, l'intégrale des Maigret, là, dans une très jolie édition, tout en haut, il y a 26 volumes.
Oui, alors c'est l'intégrale des Simenon, mais pas des Maigret. L'intégrale des Maigret, elle est à mon bureau, à Montparnasse, donc je ne peux pas envahir le bureau.
Vous faites partie de ceux qui aiment beaucoup Simenon, mais qui ne préfèrent pas Maigret dans son œuvre? Tu préfères autres romans
pas du tout. J'aime Simenon, sa manière d'écrire, ce qu'il invente, les personnages, l'attention qu'il a au monde qui l'entoure, aux gens normaux, aux petites gens, aux piétons, aux quidam, dont il pousse l'histoire jusqu'au bout pour en faire presque, sinon des héros, du moins des personnages de romans. Et ça, je trouve ça très, très, très fascinant.
Vous relisez des Maigret, par exemple?
Alors, il se trouve, j'ai relu des Maigret, mais parce qu'on s'est imposé des relectures de Maigret avec Jérôme Tonnerre, avec qui j'ai écrit l'adaptation du dernier film que j'ai fait, qui est un Maigret pour le cinéma. Et on s'était dit, on va relire tous les deux des Maigret, donc on s'est partagé le boulot. Enfin, le boulot, non, le plaisir. Et on s'était dit déjà, il faudrait que ce soit un Maigret qui se passe à Paris. Donc ça, on élimine pas mal. Donc on s'est partagé le plaisir de lecture, et puis je crois que c'est lui qui est tombé sur Maigret et la jeune morte, qui est un roman absolument formidable. Donc j'ai relu pas mal de Maigret parce qu'on s'était dit avec Jérôme Tonnerre, oh tiens, si on faisait un Maigret, voilà.
Et alors justement, vous parliez des adaptations tout à l'heure et vous pointiez quelque chose de très intéressant qui consiste à penser que c'est compliqué d'adapter le style d'un auteur. Mais justement, vous, qu'est-ce que vous en faites d'une adaptation? C'est votre manière à vous de l'avoir lu? C'est les images que vous vous êtes créées en le lisant? Ou alors, vous partez du principe que de toute façon, vous n'y arriverez pas parce que ce n'est pas transposable et que vous faites complètement autre chose?
Une adaptation se doit d'être... Enfin, se doit, je ne détiens aucune vérité, hein, rassurez-vous, mais enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Mm-hmm. Mais pour mon goût, une adaptation n'est pas la simple illustration banale d'un roman, mettons des images sur ce que l'auteur décrit, parce qu'à ce moment-là, on est illustrateur, pas adaptateur. Mais une adaptation doit non pas tirer la couverture à soi, mais doit permettre d'exprimer quelque chose de personnel. C'est-à-dire que, pour expérience qu'on ne pourra jamais faire, si on donnait le même bouquin à 10 cinéastes, si tant est qu'ils aient un peu de personnalité, ça devrait logiquement donner deux films très différents. J'en veux pour preuve un roman de Simenon qui est Les fiançailles de Monsieur Hir, c'est pas un Maigret, et que Julien Duvivier, en 47, je crois, avait adapté, ça s'appelait Panique, avec Michel Simon, et moi, beaucoup plus tard, j'ai fait un film qui s'appelait Monsieur Hir, avec Michel Blanc et Sandrine Bonnaire, et les deux films n'ont vraiment pas beaucoup de rapport l'un avec l'autre, mais ils sont tous très simenoniens.
Justement, en parlant de cinéma, je vois un petit livre qui s'appelle « Leçons de cinéma ». Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces bibles? Comment écrire un scénario? Comment faire ceci? Comment faire cela? Est-ce que c'est utile? Ou est-ce que, bon, il doit y avoir à boire et à manger, j'imagine. Mais est-ce vous êtes tenté d'en écrire, par exemple?
Non, ce sont des bibles que j'ai jamais lues. Je ne sais pas si on peut vraiment, avec un livre, apprendre à quelqu'un à écrire un scénario, à faire des films. Je ne crois pas. Il y a sans doute quelques principes fondamentaux, mais moi, je les ignore ou je les applique inconsciemment. Mais c'est ces livres qui sont souvent traduits d'américains qui disent qu'au bout de tant de minutes, il faut une relance pour que...
Il faut une faiblesse du personnage à tel endroit.
Oui, alors c'est, tout ça est sûrement pertinent et judicieux, mais je veux être plus libre que ça quand j'invente des trucs.
Alors justement, il y a tout en bas, j'aperçois entre trois grands livres un César qui est caché là.
Oui, est-ce qu'il y en a pas un autre derrière?
Ah bah si, dites-donc. Oui. Ils sont bien cachés, hein. Ils sont pas sur la cheminée. Je peux le porter ou pas?
Vous pouvez le prendre, bien sûr. C'est lourd, hein.
Parce que j'en ai rarement l'occasion, en fait. 1997. Meilleur film, c'était pour lequel?
C'était pour Ridicule.
Ah oui. Et justement, il y a des petites voitures là, juste au-dessus. Cette voiture de collection, modèle réduit, qui était dans votre chambre quand vous aviez 14 ans
ou... Ah non, c'est des voitures que j'ai achetées quand j'étais adulte ou qu'on m'a offert parce qu'il y a des amis qui savent que j'aime bien les voitures, enfin en tout cas les miniatures, mais c'est parce qu'il y a des étagères et que les livres remplissent les étagères, mais quand il y a un peu de place, ben on met des trucs et des machins, des objets, des bibelots, il y a même, c'est d'ailleurs un peu ballot parce que quand on s'est intéressé à Echnoz, et à Raymond Queneau et à Modiano, qui est plus haut, tous ces livres sont pas extrêmement apparents. C'est-à-dire qu'ils sont cachés par des gravures, des cartes postales, des trucs. Enfin, ils sont cachés, je me comprends. C'est pas pour les cacher. C'est parce que. Ouais, c'est parce que c'est comme ça. Et puis, il y a un petit coin un peu plus cinéma.
Ah oui, c'est là. Des biographies.
Biographies, mais de toute façon, mais surtout, dans tout ça, il y a quand même l'autobiographie de Harpo Marx. Et juste à côté, il y a le.
Groucho,
son autobiographie. Et je crois que pas loin, il doit y avoir, si tout va bien, la correspondance de Groucho-Marx, qui est un pur chef-d'œuvre.
Harpo Marx. Il a bien vécu ce livre, il a été beaucoup lu. Qu'est-ce qu'on y trouve?
On y
trouve l'autobiographie. En fait.
Alors, vous êtes en train de feuilleter Harpo par lui-même. Et en fait, mon idole dans les Marx Brothers, c'était son voisin dans les bibliothèques, qui est Groucho. Groucho Marx, j'en suis très, très, très
fan. C'est vrai que tout le monde connaît Groucho, mais Harpo, je crois que j'aurais été bien normal de donner son prénom, en fait.
Ah bon?
Ouais.
Oh non, mais parce que vous ne connaissez pas les Marx. Et alors, le troisième, il s'appelait comment?
Ah, bah, aucune idée.
Bah, Chico.
Ouais, non.
Et il y en avait deux autres. Ils étaient cinq au départ.
Non, mais je connais
Après, ils ont été quatre, puis trois.
Donc, c'est lui la vedette, quand même, on est d'accord.
Oui, enfin, c'est un trio. Oui, enfin, c'est pour moi, c'est la vedette parce que c'est mon préféré. Mais il y avait un trio qui était donc Groucho, Harpo et Chico. Et ils avaient deux autres frères avec qui ils ont fait très peu de films, qui étaient Zeppo et Gumo. Non, mais vous avez appris un truc aujourd'hui.
Ah oui, heureusement, merci beaucoup. Il y a quelques vieux livres aussi. Je ne sais pas si vous les avez gardés ou si vous les collectionnez. Je vois l'histoire d'Angleterre, d'André Mauroy, par exemple. Ça vient de chez un bouquiniste ou alors une bibliothèque d'arrière-grands-parents.
Alors, je vais être extrêmement décevant, mais il y a pas mal de livres qui sont ici que je n'ai jamais ouverts.
Ah bah oui, mais ça c'est normal, comme dans toutes les bibliothèques.
Oui.
C'est à venir. Vous avez quel rapport avec les livres, justement? Vous prenez votre temps pour lire
Alors, je suis un lecteur, non pas laborieux, mais je ne suis pas un lecteur boulimique. C'est-à-dire, j'aime bien prendre le temps de lire. Bizarrement, c'est très bizarre, parce que j'arrive pas à m'expliquer ça, même si j'ai un après-midi de calme à mon bureau, me poser sur un canapé et lire pendant deux heures, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est effarant de dire une chose pareille, alors que j'adore lire. En revanche, être dans un TGV pendant trois heures et lire pendant trois heures, aller et trois heures retour, je trouve ça formidable. Mais lire dans la journée, je n'y arrive pas. Je peux aller au cinéma dans la journée, je peux faire tout dans la journée, mais lire, non. Je ne sais pas pourquoi. En revanche, le soir, j'installe, je bouquine, je fume une ou deux cigarettes et j'avance le livre dans lequel je suis.
Est-ce que vous prêtez vos livres? C'est-à-dire, est-ce que vous les donnez finalement?
Ben, livre prêté, livre perdu. Voilà. Hein. Donc, non, je prête pas beaucoup. Ou alors, si on me dit, ah, tiens, t'as ça, je l'ai pas, j'aimerais bien le lire. Alors, je le prête et je sais que je le reverrai plus. Mais enfin, il m'arrive de toute façon, très rarement, de relire des livres que j'ai déjà lus. Donc, le principe de la possession, de dire si je le prête à cette personne, je ne le reverrai jamais, ben, je ne le reverrai jamais, je m'en fous, je l'ai lu.
Et vous retomberez dessus peut-être un jour, peut-être. Ailleurs.
Et alors, il y a des auteurs aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, mais qui sont à la campagne, parce que ça s'est trouvé comme ça, c'est Phoebe Gennada, par exemple, dont je suis assez entiché, et Pierre Lemaître. Que j'adore.
Vous avez lu le dernier Jainada ou pas encore?
Eh bien, je suis dedans comme c'est pas permis.
Au printemps des monstres.
Oh oui, mais
incroyable.
C'est formidable. Mais c'est formidable. Et alors, lui aussi, j'adore comment il écrit.
Je le situe simplement rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas lu, même si on l'a reçu dans La Voix et Livre souvent. C'est un auteur donc, qui enquête sur. Il n'a pas fait que ça, mais ses derniers livres, c'est ça. Il enquête sur des vieilles affaires, des faits divers, sauf qu'il se met en scène à l'intérieur dans des parenthèses où il raconte sa vie, en même temps qu'il raconte une affaire sordide. Et donc, on se retrouve à hurler de rire dans une affaire sordide.
C'est ça qui est formidable. Et alors, depuis que je lis Gennada, avant ces enquêtes de vieilles affaires, des enquêtes sur les vieilles affaires, il a toujours eu ce goût des parenthèses qui encombrent les phrases d'une manière tellement enthousiasmante. Et moi, je ne peux pas, depuis que je lis cet auteur, je le connais en plus, un mec absolument charmant, un peu désenchanté, très attachant et très talenteux. Et depuis que j'ai lu cet auteur, je ne peux pas ouvrir et fermer une parenthèse sans penser à lui. Quand j'écris, un email ou un roman ou un scénario, dans un scénario, il y a moins de parenthèses. Mais quand j'ouvre et ferme une parenthèse, je pense à Phoebe Gennada.
Cette question n'a peut-être aucun intérêt, vous allez me dire, mais...
La réponse n'en aura aucun non plus.
On va voir. Quelle serait la parenthèse dans une adaptation au cinéma? Comment traduire une parenthèse? Comment on adapterait Gennada, finalement?
Oh, ben, Gennada, je crois qu'il faut pas... Ça aussi, ça fait partie des auteurs qu'on ne peut pas adapter. Enfin, je pense que c'est inadaptable. Si on veut garder ce qu'on a aimé dans le livre, si on se fout de ce qu'on a aimé dans le livre, alors on l'adapte, oui, bien sûr, mais...
Non, mais par exemple, l'adaptation de Truman Capote qui enquête sur pour le sang-froid, elle est pas mal.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Parce que c'est un personnage comme Gennada.
Oui, on pourrait peut-être mettre en scène quelqu'un qui enquête sur. C'est possible, mais ça ne m'a jamais effleuré. Non, mais j'ai vraiment. J'ai beaucoup de respect pour les auteurs que j'aime et j'ai pas envie d'y toucher. Même si j'ai adapté Simenon, mais j'ai pas envie d'y toucher. Et, par exemple, Pierre Lemaître, dont j'adore l'écriture, me dit c'est très bien, c'est pas moi qui les adapte, et c'est aussi bien comme ça. Enfin, pour moi, c'est aussi bien. Mais par exemple, William Boyd, que j'adore, je n'ai pas envie de toucher, Jonathan Cohen non plus, enfin des tas d'auteurs comme ça que j'aime. J'ai envie de les laisser tranquilles et de me laisser tranquille avec le plaisir de leur lecture.
Et nous, on vous laisse tranquille. Merci beaucoup.
Non, merci à vous.
Patrice Lecomte. Merci.
Et je rappelle, Monsieur Bouboule, c'est le dernier roman de Patrice Lecomte chez Artaud. Thomas Gunzig, vous êtes toujours avec nous. Comment sont rangés les livres chez vous ?
C'est relativement mal rangé.
Tout le monde me dit ça. Hein.
Ouais, non, c'est mal rangé. Non, mais je suis assez jaloux. Des fois, je vais chez des gens comme ça, qui ont des bibliothèques. Tout est bien rangé par collection, par ordre alphabétique d'auteur, par période, machin. Moi, ils sont un peu les uns sur les autres. Je sais que j'ai juste un petit espace où c'est les livres dont je me sers pour mes cours de littérature. J'en ai des cours de littérature, donc j'en ai là une 20-30 qui me sont utiles. Les autres, je ne sais pas du tout où ils sont. Ils disparaissent souvent et d'ailleurs, j'en ai pas des masses, en fait. J'ai pas une maison, un appartement qui est très grand et j'ai fait beaucoup d'enfants. Donc,
À Bruxelles.
Donc, en fait, j'ai pas des masses de livres et je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire, mais j'ai beaucoup de livres dans ma liseuse. Mais c'est un gain de place.
Vous êtes de ceux-là.
Ouais, je suis de ceux-là. Ouais, j'ai pas du tout le culte de du papier, de l'objet, machin, etc.
Pourtant, vous êtes chez un éditeur qui a le culte du bel objet livre.
Absolument, mais j'ai tous les diables ouverts, par contre. Mais non, moi, j'aime bien, en fait, je fantasme d'être un jour dans un appartement bien rangé avec de l'espace. Et c'est, voilà, ceux qui ont des enfants comprendront ce que c'est que cette espèce d'entropie horrible où il y a toujours ce qu'on appelle en Belgique du brol, mais vous connaissez, c'est le nom de l'album d'Angèle.
Et si y a le feu, vous prenez quel livre ?
Si y a le feu, je prends quel livre ? Je prends ma liseuse, tiens.
Ah bah oui, du coup c'est simple. Bah justement, on va en chercher des livres physiques, des beaux objets livres, dans une librairie, dans un instant.
14h-15h sur Europe 1.
La voix est livre.
La Voix et Livre continue, c'est l'heure du libraire. Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine a pensé à nous pour quelques bons conseils.
Bonjour Stan.
Bonjour Nicolas.
Alors trois livres, deux grands formats de cette rentrée littéraire et puis un poche que vous aimez particulièrement.
Oui, alors bon, on a un mois de janvier, ça n'aura échappé à personne, qui est chargé en grande tête d'affiche, à commencer par Michel Houellebecq. Mais on a aussi d'autres grands auteurs qui reviennent sur le devant de la scène, et c'est assez rare pour être souligné, parce qu'en général, le mois de janvier est un mois quand même plutôt tranquille. Question parution. Peut-être que les élections... C'est pas. Mais en tout cas, on a un gros plateau, puisque notamment arriveront Pierre Lemaitre, qui nous revient à la fin du mois de janvier, David Foenkinos, et je voulais vous évoquer le Karine Thuil, qui nous revient un an et demi après Les Choses humaines. Choses humaines qui a été un très grand succès public, critique, Goncourt des lycéens, prix Interallié, grand succès aussi en poche. Il est au cinéma à l'heure où on se parle. Donc autant dire qu'on ne pensait pas que Karine Thuil reviendrait aussi vite. Et elle, non seulement elle nous revient, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas desserré les poings, puisque son nouveau livre, La Décision, est une claque comme elle a l'habitude de nous donner depuis quelques romans maintenant. Alors, au centre, une femme, Alma, elle est juge antiterroriste. Et le roman, en fait, va se découper sur deux niveaux. Elle est confrontée, après avoir encaissé furieusement les différents séismes de l'actualité qu'on a pu suivre, le livre se déroule de nos jours, et elle est confrontée au cas d'un Français qui revient après être parti, visiblement pour s'engager, mais on n'est pas sûr, avec Daesh, etc., et qui revient en France, et qu'il faut voir s'il est possiblement un terroriste, ou si vraiment il s'est égaré là-bas, enfin bon. Et donc, on va suivre l'interrogatoire de cet homme, et de l'autre côté, on suit la vie de cette femme, qui est confrontée forcément à ces événements hors du commun, avec ces prises de décision permanentes qui peuvent engager tellement de choses, tellement de vies. Et là, elle est donc forcément en plus avec un couple qui bat un peu de l'aile. Donc autant dire que c'est un roman qui est très rapidement étouffant et qui est très rapidement addictif, en fait. On a très vite envie de savoir ce qui va se passer. On souffre avec elle. C'est un personnage unique, c'est-à-dire que contrairement au précédent roman de Karine Thuil, où on avait plusieurs personnes un peu chorales avec différents personnages, là, on est vraiment centré sur Alma, ce qui rend le livre encore plus efficace et encore plus étouffant.
La décision de Karine Thuil, qui va être un gros carton de cette rentrée, divers, j'imagine. Ensuite, Manuel Carcassonne, ça c'est chez Grasset.
Oui, Le Retournement. Alors ça, c'est une surprise. Alors, très difficile de parler de Manuel Carcassonne en une phrase, mais disons que c'est un des très grands éditeurs de la scène française, un éditeur dans la grande tradition de l'éditeur français.
Patron de stock.
Patron de stock aujourd'hui. Et il nous sort ce livre dans lequel il va, aux éditions Grasset, dans lequel il va revenir donc sur le questionnement de ses racines. Alors, c'est un livre qui est assez difficile à résumer. C'est un voyage à la fois géographique. Il y a des passages sublimes sur le Liban, en fait, qui va être au cœur du livre. C'est un voyage aussi dans l'histoire, puisqu'on va remonter les siècles au travers des méandres de son histoire familiale et de l'histoire de l'humanité, puisque tout ça va être lié au travers des grands mouvements historiques. C'est un livre aussi sur la laïcité et la religion, question aussi autour du judaïsme, de la laïcité. C'est écrit avec énormément... Alors, c'est un des partis pris du livre qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a énormément de citations. Citations de grands penseurs, de grands philosophes. Et donc, c'est un livre qui est à la fois érudit, mais une érudition qui vous tend la main. En fait, c'est quelque chose qui vous confronte. Alors moi, c'est des univers que je ne connaissais pas du tout, en grande partie. Et c'est extrêmement, alors, tour à tour, dérangeant, fort, fascinant. C'est effectivement un livre, vous n'êtes jamais en confort, vous n'êtes jamais en sécurité, c'est ce qui fait sa grande force. Moi, j'ai découvert énormément de choses au travers de ce livre et c'est un magnifique portrait, sans oublier qu'il a aussi l'art et la manière de dessiner des mondes et des univers en quelques phrases. Les chapitres sur Jean d'Ormesson valent leur pesant de cacahuètes.
Alors, vous emportez, mais du coup, il ne reste plus que 30 secondes pour le livre de poche, mon petit Stan.
Alors, Colson Whitehead, Nickel Boys, chef-d'œuvre. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose? Non, peut-être pas. Sachez simplement, effectivement, que c'est certainement un futur classique de la littérature américaine. Il revient après l'extraordinaire, déjà, Underground Railroad, qui était aussi un chef-d'œuvre. Pulitzer, il avait eu le Pulitzer pour Underground Railroad. C'est donc un des deux auteurs de l'histoire à avoir eu deux Pulitzer d'affilée pour deux romans différents. C'est absolument à découvrir. Il épurait au possible le dessin d'un petit gamin dans les années 60 aux États-Unis. Je l'ai lu deux fois. La deuxième fois, j'étais totalement scié. La première fois, j'avais adoré l'histoire. Et la deuxième fois, j'étais totalement scié par la maîtrise, le mot juste, ce qui fait un classique. Vous mettez ça à côté de Steinbeck, vous mettez ça à côté des grands auteurs américains du début du XXe siècle. Et voilà, vous avez une pierre de plus dans cette littérature qu'on adore.
Avec une fin de dingue, Nickel Boys de Colson Whitehead, prix Pulitzer pour Underground Railroad, on s'en souvient. Merci beaucoup, Stan.
Merci, à bientôt, Nicolas.
De retour en studio, Héloïse Goy nous a rejoint pour sa chronique jeunesse. Bonjour, Héloïse.
Bonjour, Nicolas.
Alors aujourd'hui, c'est un roman jeunesse de Noël.
Oui,
c'est et trop tard pour Noël, mais bon.
Oui, mais on est toujours dans l'ambiance.
Oui,
hein.
Oui.
Je ne vous parle pas de n'importe quel livre, surtout, Nicolas. C'est même un livre événement dans le monde entier. Je vous donne un indice sur son auteur.
C'est Harry Potter.
Ouais, oui, j'imagine que vous avez reconnu. Je vous parle d'un nouveau livre de la grande J.K. Rowling, l'auteur de la cultissime saga Harry Potter. Alors cette fois, elle signe un roman jeunesse qui s'appelle Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Le titre anglais est un peu plus simple, hein. The Christmas Pig. C'est chez Gallimard. Alors c'est pas la première fois qu'elle reprend la plume pour les enfants depuis Harry Potter. L'année dernière, J.K. Rowling a publié L'Ichabod. C'est un roman qui avait évidemment cartonné en librairie, hein, comme tous ses ouvrages. Et là, c'est encore une nouvelle histoire qu'elle raconte aux enfants avec Jack et la grande aventure du cochon de Noël. Bon, je dis qu'elle s'adresse aux enfants, mais je ne vais pas vous cacher, Nicolas, que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à me plonger dans l'univers fantastique de la romancière britannique.
Oui, mais vous êtes une grande enfant. Qu'est-ce qu'il raconte ce cochon de Noël, alors?
Eh bien, en fait, le roman nous parle non pas de un, mais de deux cochons de Noël. Alors, heureusement, ce ne sont pas des cochons qui vont finir dans les assiettes du réveillon, hein, je vous explique. Jack, c'est un petit garçon de 7 ans qui vit avec sa maman, son beau-père et sa demi-sœur. Et depuis qu'il est tout petit, son meilleur ami, celui à qui il se confie et qui le réconforte, c'est une peluche qui s'appelle LC. Mmh. LC, ce sont les initiales de l'eau cochon. J'ai bien dit l'eau cochon et non pas le cochon. C'est comme ça que Jack prononçait le nom de sa peluche quand il a appris à parler. Alors LC, c'est un petit cochon délavé et rêche. Il n'est pas très beau, il a perdu ses yeux qui ont été remplacés par des boutons. Mmh. Bref, pour Jack, c'est la plus belle peluche du monde. Sauf que voilà, quelques heures avant la nuit de Noël, une terrible dispute éclate dans la voiture entre Jack et sa demi-sœur Holly. Holly est tellement en colère contre son petit frère qu'elle jette la peluche, l'eau cochon, par la fenêtre sur l'autoroute. Catastrophe, LC est introuvable, Jack est inconsolable. Alors même si Holly lui offre tout de suite une nouvelle peluche pour se faire pardonner, Jack, lui, il est bien décidé à retrouver l'eau cochon coûte que coûte.
Et c'est là qu'on vire dans le fantastique, j'imagine.
Ah, absolument, et c'est aussi le moment où la nuit de Noël commence à tomber. Alors pardon, hein, j'ai pas pu m'empêcher de mettre une musique à nouveau du film Harry Potter à l'école des sorciers, mais je trouvais que ça collait plutôt bien à l'ambiance de cette nuit de Noël. Alors Jack, il va s'endormir quelques heures, mais quand il se réveille en pleine nuit, surprise, les jouets et peluches de sa chambre ont tous des yeux et des oreilles, un peu comme dans Toy Story. Et le cochon tout neuf que sa demi-sœur vient de lui offrir se met même à parler. Et ce nouveau cochon, il va proposer à Jack de partir au pays des choses perdues, à la recherche de LC, le cochon, sa peluche qu'il a égarée sur l'autoroute. Alors même si au début, Jack, il a du mal à y croire, eh bien, il va se laisser emporter dans cette aventure. Et là, les péripéties s'enchaînent. Déjà, comme dans Alice au Pays des Merveilles, Jack, il va se mettre à rapetisser, jusqu'à ne mesurer plus que 20 cm. Mm-hmm. C'est ce qui va lui permettre d'accéder au pays des choses perdues et d'affronter le très très méchant grand perdeur. Voilà, je m'arrête là pour ne pas vous dévoiler plus de l'intrigue. Ce que je peux vous dire, c'est que ici, J.K. Rowling, elle n'a rien perdu de son talent et de son imagination magique. C'est un livre tendre, drôle. Et en plus, il est joliment illustré en noir et blanc par le dessinateur britannique Jim Field. C'est dès 8 ans, mais comme je vous le disais, il n'est pas du tout interdit aux adultes.
Et ça s'appelle « Jack et la grande aventure du cochon de Noël » et c'est chez Gallimard Jeunesse. Merci beaucoup Héloïse.
Merci Nicolas.
Ben justement Thomas Gunzig, je vous ai posé la question avant de débuter l'émission, savoir si vous aimiez les livres jeunesse. Non seulement vous m'avez dit que vous en écriviez, mais vous m'avez dit qu'il y en avait un qui était au programme scolaire en Belgique.
Oui, absolument.
Ça veut dire quoi?
Bah, ça énorme. Veut dire que j'ai chaque année des classes et des classes de petits élèves d'une douzaine d'années qui sont obligés de lire ce livre.
C'est terrifiant.
Oui, c'est assez particulier de se dire que ce livre que j'ai écrit pour faire plaisir aux gamins et aux gamines, ils sont maintenant obligés de le lire. Mais ce qui est sympa, c'est que quand il m'arrive d'aller de temps en temps dans les classes, ils ont quand même l'air contents de me voir, ce qui me laisse croire qu'ils l'ont aimé.
Voilà. C'est quoi?
Alors, c'est un livre qui s'appelle « De la terrible et magnifique histoire des créatures les plus moches de l'univers ».
Ça raconte quoi?
Ça raconte l'histoire d'extraterrestres qui sont tellement moches qu'ils n'arrivent même plus à tomber amoureux les uns des autres et donc leur race risque de s'éteindre. Donc, ils vont essayer de trouver une nouvelle forme dans laquelle s'incarner. Ça sera un petit garçon qui fait des dessins qui leur dessinera cette nouvelle forme.
Vous nous rappelez le titre?
De la terrible et magnifique histoire des créatures les plus moches de l'univers.
Et moi, je rappelle le titre de ce nouveau roman, Le sang des bêtes. C'est au Diable Vauvert. Merci beaucoup, Thomas Gunzig.
Un plaisir.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.